Tâche de nuages dans la moitié nord, Bretagne et Vendée conservant tout de même un temps assez ensoleillé.
Toutes les prévisions météorologiques, département par département, à la ville, à la mer ou à la montagne, sont disponibles par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 32,30, France Inter au bout du fil.
Et à la Bourse de Paris, le CAC 40 ouvre en baisse de 1%, 4974 points, 9h05 sur Inter. Bonjour Olivia Gesbert.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. Quand les publicitaires et les experts cataloguent les consommateurs que nous sommes à coup d'études de marché et de profils sociologiques, attention, vous êtes ciblés au plus près. Alors comment font-ils? Pourquoi le font-ils? Et peut-on y résister? C'est le thème du dossier central de Tchatchatchatch ce matin. À la rubrique Consommer autrement, Emmanuel Gouache nous fera découvrir la tribu des autonomes. Loin de tout confort matérialiste, loin de toutes les pressions consuméristes, les autonomes ont choisi de vivre à contre-courant. Enfin, à l'heure des derniers préparatifs et à 48 heures des deux grandes soirées spéciales Route du Rock sur France Inter, nous aurons Bernard Lenoir en ligne pour un zoom furtif mais efficace sur la programmation de ce festival. Auditeurs de France Inter, sachez que ce matin, encore Tchatchatchatch a choisi de faire de vous son cœur de cible.
He's lost. Mama, yeah, yeah, boy, yeah, boom, diggy, yeah.
C'est Kumba Bambino, It's a man's, man's, man's world. C'est très difficile à dire. On est sur France Inter, il est 9h10. Sur France Inter.
De 9h à 10h, Tcha-tcha-tchatch, le magazine d'Olivia Gesbert.
Façon, voyons voir si c'est plus facile à dire. It's an advertising, advertising, advertising's world. Non, c'est pas tellement plus facile. Vous, chers auditeurs, vous êtes des cibles. D'ailleurs, moi aussi, je suis une cible. En fait, c'est pas compliqué. Nous sommes tous des cibles. Les experts S-Conso et les publicitaires nous observent à la loupe. Nos habitudes de vie sont disséquées. Nos comportements sont étiquetés. Nos profils que l'on pense si personnels, eh bien, eux sont soigneusement catalogués. Derrière les études de marché et les campagnes promotionnelles, il y a les commanditaires, la grande distribution, les entreprises de l'agroalimentaire, les grandes marques de vêtements, l'industrie automobile, etc. Beaucoup d'autres encore. Tous veulent savoir qui nous sommes pour mieux nous plaire, car la phase de séduction achevée, il y a peut-être le très probable passage à l'acte, le passage à l'acte d'achat. Cible mouvante, cible consciente. Au fond, je me demande si pour tous ces professionnels du ciblage, la cible la plus appétissante n'est pas justement celle qui pense ne pas être une cible. Et c'est peut-être vous, François Brune. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes cofondateur du RAP, le collectif Résistance à l'agression publicitaire. Vous êtes aussi professeur et écrivain, auteur entre autres du Bonheur conforme, de Médiatiquement correct et de L'idéologie aujourd'hui, paru tous trois aux éditions Parangon. Avec nous, il y a aussi Rémi Sansaloni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, philosophe, responsable d'études marketing au sein du département TNS Média Intelligence, en charge de l'observatoire marketing sur le comportement des consommateurs. Toujours ?
Toujours.
Et votre livre, Le non-consommateur ou comment le consommateur reprend le pouvoir est paru aux éditions Dunod. Alors j'aimerais qu'on pose d'abord un peu clairement les termes du débat pour vous différencier. Peut-être, vous parlez, Rémi Sansaloni, de consocratie. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, d'abord je tiens effectivement à préciser que mon point de vue est né de l'observation du comportement de consommateur depuis une vingtaine d'années, et en retraçant son évolution, je me suis rendu compte que le consommateur était en quelque sorte entré en résistance par rapport à la fois au modèle théorique qui essaye de le définir, cette segmentation dont on parlera peut-être, et puis contre les industriels et les distributeurs qui ont parfois tendance à lui raconter des carabistouilles. Et à travers différentes études, on peut montrer que le consommateur aujourd'hui, même s'il accepte la consommation, s'il veut toujours consommer, et si la consommation reste le moteur de la croissance, a tendance un peu à dire non à certains discours et à entrer en résistance.
Alors,
c'est ce que j'ai appelé la consocratie, c'est-à-dire c'est le pouvoir retrouvé ou le pouvoir trouvé du consommateur, de sa capacité à dire non et à résister à ce qu'on veut bien lui faire acheter ou ce qu'il veut bien acheter. C'est lui qui décide aujourd'hui, grâce à différents moyens technologiques dont on parlera peut-être, ce qu'il achète quand il veut, comme il veut et où il veut.
Alors magnifique, François Brune, on va peut-être être d'accord, nous sommes tous des résistants. Bon. Vous parlez pas de consocratie, vous parlez plutôt de totalitarisme, encore d'impérialisme publicitaire. En somme, vous dites la consommation est une idéologie.
C'est-à-dire que, il y a effectivement un pouvoir, un contre-pouvoir d'ailleurs, on pourrait dire, de celui qu'on appelle le consommateur, c'est-à-dire du citoyen qu'on réduit déjà, dans l'image qu'on lui renvoie à lui-même, à la situation de consommateur. On ne le voit que sous cet angle-là, et donc on le définit comme tel, on l'enferme comme tel. Bon, cela étant, mon point de vue est un peu différent dans la mesure où, a priori, moi je n'ai rien contre le fait que l'on consomme. Par contre, je ne suis pas d'accord avec l'idéologie selon laquelle la finalité de notre société et de notre existence serait la consommation pour la consommation. Et donc, d'une certaine manière, effectivement, non seulement je me réjouis qu'il y ait des résistances des citoyens appelés consommateurs, Encore que il faudrait varier cette résistance selon effectivement les capacités plus ou moins critiques selon leurs conditions sociales qu'ont les dits consommateurs. Bon, d'autre part, cette résistance n'est pas simplement une résistance à telle ou telle consommation, ça peut être aussi une résistance à l'esprit même, à la finalité même de la consommation. Et là se pose le problème, bien entendu, de la très grande inégalité de pouvoir entre ce qu'on peut appeler le système publicitaire ou marketing, c'est-à-dire qu'il y a des capacités énormes, si vous voulez, pour délivrer son discours, et les capacités, le comportement du consommateur qui est extrêmement réduit par rapport à cela.
Qu'est-ce que c'est pour vous exactement la finalité de la consommation ?
La finalité de la consommation, c'est celle qui est définie par la société dite de croissance aussi, c'est-à-dire produire de plus en plus pour accélérer la croissance et donc faire consommer de plus en plus pour que, on nous le dit tous les matins, il faut consommer pour soutenir la croissance. Ce qui est une problématique fondamentale de la société dite de consommation, des sociétés occidentales, qui est actuellement en train de buter, parce qu'il faut en parler aussi, si vous voulez, sur les limites de la planète, les limites de ce mode de vie qui ne pourrait pas être pratiqué par 6 ou 10 ou 20 milliards d'individus.
On va en reparler, François Bellier.
Enfin, simplement, sur le plan de la cible, je voudrais dire simplement un mot, c'est que nous sommes tous cibles, bien entendu, mais pas forcément directement. C'est-à-dire que, par exemple, une publicité pour un produit qui ne concerne pas un enfant, et que perçoit un enfant, lui dit un certain nombre de choses sur la manière de vivre, et en cela, il est perméable. Il est indirectement cible sans le vouloir. C'est-à-dire que toutes les cibles ne sont pas forcément visées, enfin, sont toutes visées, mais le projectile, si vous voulez, produit quand même parfois des dégâts collatéraux.
Voilà. Bon, on va faire un petit état des lieux quand même avant d'entrer dans le débat de la publicité. Vous venez de dire le mot, on est quand même en plein dedans. Vous allez peut-être m'aider à réactualiser un peu mes chiffres, Rémi Sansaloni. On dit en gros 540 500 spots télé chaque année, c'est à peu près juste?
Oui, je pense que j'ai pas les chiffres.
En ordre d'idée, multiplication des écrans et donc des supports publicitaires. Oui. On sait que la télé attire à elle toute seule au moins 30% des investissements publicitaires, ce qui représenterait autour de 20 milliards d'euros. À titre d'exemple, TF1 annonce une croissance de son chiffre d'affaires publicitaire net de 4% par an. Internet grignote, lui, 6% du gâteau publicitaire, ce qui est pas encore énorme, avec une progression de près de 80 à 90%. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces chiffres? Est-ce qu'on peut pas simplement poser comme premier état des lieux que la publicité est omniprésente, en tout cas déjà sur les canaux, à travers les canaux traditionnels, Rémi Sansaloni?
Ah oui, il est clair que la publicité est omniprésente. Il n'y a pas, photo. Hein. Mm-hmm. Mais je pense que la question est pas là, parce qu'en fait le consommateur remet pas fondamentalement en cause la nécessité de la publicité. Ce qui remet en cause, c'est effectivement son caractère un peu excessif et son caractère un peu envahissant.
Alors du coup, malgré ça, on disait publicité omniprésente sur les canaux traditionnels, mais il y a aussi quand même de nouveaux espaces de publicité qui sont en train de se créer. Il faut faire avec les nouvelles technologies aussi.
Il faut faire avec les nouvelles technologies, d'autant plus que pour les hommes de marketing comme pour les publicitaires, ces nouvelles technologies constituent un des principaux outils de résistance du consommateur qui, avec Internet et tous les outils périphériques à Internet, peut un peu se créer lui-même ses propres médias, zapper la publicité, s'ouvrir des espaces non chargés de publicité. Donc ça oblige aujourd'hui à la marque. Naguère, c'était un peu le consommateur recevait la publicité un peu passivement. Maintenant, activement, il peut y résister. Et c'est donc un peu aujourd'hui à la marque à aller conquérir le consommateur, d'où son intérêt très marqué pour ces nouvelles technologies, et où on voit bien à l'heure actuelle comment les publicitaires essayent de jouer avec la toile pour attirer les consommateurs, notamment les jeunes internautes.
C'est tout le concept de votre ouvrage, Rémi Sansaloni. Vous dites c'est une nouvelle donnée, c'est l'entrée en résistance du consommateur. Il résiste contre les théories qui tentent de modéliser son comportement, il résiste contre les industriels, les distributeurs ou encore les publicitaires qui tentent parfois de lui faire acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Enfin, c'est un zappeur et un infidèle, dites-vous. Il échappe à toutes les prévisions.
Oui.
C'est ça ?
Oui, tout à fait.
Vous êtes d'accord avec ça, François Brun ?
Bon, le consommateur
est un être intelligent.
Un certain nombre de produits peut échapper naturellement à ce qu'on peut faire comme campagne, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'échappe pas à la philosophie même de la consommation, à l'idéologie qui traverse l'ensemble des messages. C'est cela, si vous voulez, l'ambiguïté. Et c'est d'ailleurs pour cela que, d'ailleurs ça ne sera pas le cas aujourd'hui, je m'en réjouis, avec beaucoup de publicitaires, le débat portait à faux, si vous voulez, parce qu'ils me disaient, oui, mais on peut très bien choisir Pepsi plutôt que Coca. Et moi je répondais, oui, mais dans les deux cas, il y a cola. C'est-à-dire que, si vous voulez, on peut échapper à un certain nombre de campagnes précises pour des produits précis. On peut même, d'ailleurs, être cannibalisé une marque, c'est-à-dire qu'une marque fait une publicité, mais on croit que c'est pour une autre marque, etc. Bon, donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui se passent. Donc on peut avoir un certain jeu en tant que consommateur, et notamment le jeune consommateur peut avoir le sentiment qu'il a un certain jeu, une certaine liberté de choisir.
Mais
il
liberté.
Est obligé de choisir. C'est là où est le problème. Il est obligé de consommer dans la mesure où, enfin obligé, dans la mesure où tout lui dit, vivre, c'est cela, c'est consommer. Vivre, c'est acquérir de nouveaux produits. Vivre, c'est cela. Alors que la publicité, dans les valeurs qu'elle récupère, essaye de dire que toute la vie est dans le produit, alors que l'essentiel de la vie est ailleurs. Mais même Philippe Michel, qui était un publicitaire connu, le disait. Il disait finalement, il n'y a rien de plus futile que de consommer. Et nous, notre problème, disait-il, c'est d'essayer de donner à cet acte futile une dimension autre. Et Séguéla disait la même chose. Il disait, il faut ajouter au produit une valeur. Mais le problème, c'est que le produit ne peut pas avoir cette valeur. Et quand on acquiert le produit, on est forcément frustré, parce qu'on a cru acheter tout un ensemble de valeurs, tout un mode de vie,
c'est ce qu'on
que quoi. Le produit n'est que le produit. D'où la frustration fondamentale. C'est,
oui, je suis tout à fait d'accord avec
on
vous.
On parle de la philosophie, vous qui êtes philosophe. Oui,
tout à fait. Est-ce
qu'on peut échapper à cette philosophie de la publicité? Alors,
il est clair, on peut échapper à la philosophie de la publicité, mais ce qu'il est clair, c'est que pour le moment, tous les sondages et toutes les études prouvent que les Français et même une bonne partie des Européens veulent consommer, et pour eux, la consommation est un droit. C'est un droit acquis, c'est quelque chose d'acquis. Donc ils veulent consommer, mais...
Donc en fait, vous répondez à une demande. Vous qui travaillez dans des études de marketing, les publicitaires aussi, on répond à cette demande.
On répond à cette demande, il n'y a pas de remise. Je crois qu'il faut être clair. Apparemment, enfin, d'un point de vue très global, mis à part quelques consostoppeurs, il n'y a pas de remise en question fondamentale de la société de consommation. Ce qui est remis en cause, c'est le rôle actif du consommateur dans cette chaîne.
D'accord.
Et cette entrée en résistance du consommateur, cette consocratie, c'est l'expression de la volonté des individus, parce que nous sommes dans une société de l'hypermodernité où l'individu est prépondérant au regard du collectif, où l'individu, il veut être entendu comme tel, et il dit « je résiste parce que vous ne m'écoutez pas ».
Sauf que les publicitaires et les agences de marketing, j'imagine, ont pris en compte cette donnée-là. Ils ont dû prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, le consommateur est un consommateur actif et plus seulement passif.
Tout à fait. Ils essayent de faire, ils l'ont fait notamment à travers le marketing one-to-one.
Mais qu'est-ce que c'est le one-to-one?
C'est justement cette tentative de marketing qui est orientée non plus vers un collectif.
Mais d'un individu à un individu.
D'individu à l'individu. Mmh. Mais même ça, même ce type de marketing est resté en deçà des aspirations des consommateurs qui, à mon avis, veulent passer d'un marketing de l'offre à un marketing de la demande. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on raisonne toujours en amont, c'est l'industriel qui ou le distributeur qui va vers qui dit le consommateur, moi je vais lui envoyer un message, il va le recevoir. Et le consommateur, il dit non, je suis plus d'accord. Moi j'ai un regard critique, j'ai des outils qui me permettent de zapper votre discours et je veux passer d'une démarche inverse, d'une démarche où on va partir du consommateur dans ses expressions individuelles pour monter vers vous m'écoutez et là vous allez me produire que vous allez me conseiller, vous allez me proposer un produit ou un service qui correspond exactement à mes attentes.
Alors, les consommateurs courent-ils plus vite que les agences en marketing? On en reparle dans quelques instants avec François Brun et Rémi Sansaloni sur France Inter.
Tes lèvres, je bois bière et rebière, t'écoutant débiter les charmantes banalités. Et quand dans tes yeux immenses, je perds le fil de ta jactance, je te dis t'es belle, tu sais, tu réponds oui, je sais. Oh, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Je porte mon plus beau costume et dans la poche toute ma la fortune, c'est pour mieux te combler et puis t'impressionner. Parce que c'est sûrement pas ma troye, ni mon haleine d'ivrogne qui vont te faire craquer. Je suis pas si bête, tu sais. Oh, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle pour moi, trop belle, trop belle, trop belle. À bout de souffle et son flot incessant m'échappe maintenant pour masquer mon absence. Troubler tes rares silences, je te dis t'es belle, vraiment, t'es vraiment belle, vraiment. Oh, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle pour moi. J'ai de l'allure, en face de toi j'en suis moins sûr. Je me suis surpris à saliver tout à l'heure quand tu t'es penché comme un chien sur sa pâture. Je grogne dès qu'une petite enflure tentait de t'approcher. Et ça n'a pas arrêté parce que t'es bien trop belle, tu sais. 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 T'es bien trop belle, tu sais.
Madame, t'es belle sur France Inter, il est 9h27. Nous parlons toujours publicité et marketing ce matin en compagnie de François Brune et de Rémi Sansaloni. Moi, je voulais savoir, puisque donc le consommateur a pris de plus en plus de recul, puisqu'on parle maintenant d'un consommateur actif, le consommateur, c'est toujours un terme générique un peu délicat à employer, mais enfin, on va pas entrer dans la nuance à chaque instant. Comment s'adresser donc au consommateur pour être plus efficace? Question posée à vous, Rémi Sansaloni. J'ai l'impression que les vieilles ficelles de la réclame fonctionnent plus, que les spots publicitaires qui sont omniprésents et trop voyants finissent par énerver, alors que les publicitaires cherchent des nouvelles recettes quelque part de diffusion. C'est un de vos collègues, un publicitaire pardon, qui disait c'en est fini d'imposer, il faut inviter. C'est ça, les nouvelles formes de publicité sont plus fines et aussi peut-être un peu plus insidieuses. Le marketing de rue, le placement de produits.
Exactement, les publicitaires essayent de sortir de la publicité un peu traditionnelle, via les médias classiques, pour s'ouvrir à une publicité interactive, beaucoup plus participative, où ils montent des campagnes, où ils invitent les consommateurs eux-mêmes à faire la publicité, ils deviennent acteurs de la publicité. Dans certains groupes agroalimentaires, ont lancé des idées de sondage où les consommateurs vont choisir, vont voter pour le produit qu'ils apprécient. Donc après, vont se développer effectivement du marketing viral, du marketing de rue. On va développer un certain nombre d'outils pour essayer de comprendre le consommateur, comment est-ce qu'il fonctionne dans ses actes d'achat. Et on va sur les supermarchés, on travaille sur le neuromarketing et les neurosciences, des choses comme ça. Donc effectivement, on multiplie les sources de publicité.
Pour tenter de cibler au plus près le consommateur. Rémi Sansaloni a parlé de neuromarketing. François, pour une petite explication, c'est quoi ce neuromarketing?
Oui, bon, ça consiste bien entendu à saisir l'animal humain dans tout ce qu'il peut avoir de réflexe pour essayer de lier le désir d'achat ou le rêve du produit à des instincts ou des réflexes spontanés qui d'ailleurs sont pas forcément biologiques. Ça peut être aussi culturel que biologique.
Mais on se sert de quoi? Juste une chose sur le neuromarketing. On se sert de l'IRM. L'IRM, c'est quand même, ça permet de photographier un peu le cerveau et son activité. C'est un outil médical.
Oui, ça n'a pas encore abouti.
Ça commence aux États-Unis.
Le cerveau, par bonheur, reste largement obscur et méconnu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources dans l'intelligence humaine.
Mais est-ce que là, il n'y a pas un risque de dérive éthique quand même d'utiliser des appareils médicaux pour des fins commerciales?
Image. Le risque est partout. Il est dans les discours les plus innocents. Et même lorsqu'on dit qu'on ne veut plus imposer la publicité, mais incliner le consommateur à désirer les choses, on retrouve tout à fait la formule d'Aldous Huxley qui dit « Tel est le but du conditionnement, faire aimer aux gens le destin social auquel ils ne peuvent pas échapper. » Là, il s'agit du destin de consommateur. Pour revenir sur le mot consommateur, vous savez, j'ai fait un article un jour où j'ai remplacé le mot consommateur par le mot mangeur. À leur donner, ça donnait 60 millions de mangeurs. Les mangeurs sont en panne de manger. La croissance est en panne parce que, vous voyez, bon. Et vous comprenez tout de suite la fantastique réduction qu'il y a de l'individu à son comportement de consommation. Ce qui fait que lorsqu'on lui pose des questions dans les sondages, il se plie au cadre dans lequel on le présente à lui-même. Et donc, à partir de là, on va croire qu'il y a ce désir de consommer. Et pour revenir à ce que disait mon très aimable partenaire, eh bien, je pense que s'il y a désir de consommer, il n'est plus tout à fait le même maintenant qu'il l'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, si vous voulez, c'était les fameuses glorieuses, les gens qui avaient souffert durant la guerre, qui avaient des privations. Toute la classe sociale laborieuse était contente d'accéder à la consommation comme une sorte de libération, pensant effectivement que ça serait peut-être là le sommet du bonheur, vous voyez. Et puis, bien entendu, là-dessus s'est greffé ce qu'on peut appeler le conditionnement publicitaire, qui fait maintenant que le désir de consommer est un désir de consommer davantage, de surconsommer, qui ne renvoie pas à des besoins fondamentaux, mais qui est perçu comme une sorte de continuation de dimension, de la dimension sociale, d'existence sociale. Et alors, ce qui est dramatique, comme on le disait tout à l'heure pendant la pause, c'est qu'effectivement, ce sont les plus démunis au niveau des ressources, ou au niveau des capacités de résistance, qui sont les plus accros à la publicité et au modèle publicitaire. Alors, on pensait effectivement aux jeunes des banlieues, comme on dit, qui portent tous des marques, faute d'avoir une identité autre, ou bien aux enfants, effectivement, qui ne savent pas, qui confondent la croissance de leur consommation avec la croissance de leur être. Et ça, c'est induit par le système publicitaire dans toutes ses manifestations, dans tout son discours. Bon, j'arrête parce que
Rémi Saint-Salvini, François Brune a ouvert le débat, et c'est vrai qu'il y a quand même des cibles plus fragiles que les autres. On parlait donc des jeunes des banlieues, on parlait de ceux qui ont un pouvoir d'achat le plus faible, on n'a pas parlé encore aussi des enfants. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre des limites à ce ciblage, justement?
C'est une vaste question. Je n'ai pas prétention à avoir l'autorité à y répondre. Il est clair que un certain nombre de populations sont plus influençables. Récemment, à la fois aux États-Unis et en France, des organismes genre AFSA ou BVP, enfin pas le BVP pas en France, mais l'AFSA en France, ont soulevé la question de la publicité durant les séries télévisées pour les enfants, dans les émissions pour enfants. En se rendant compte qu'effectivement toute la publicité sur les produits agroalimentaires avait peut-être sans doute tendance à augmenter leur consommation de produits de grignotage et donc pouvait avoir des effets sur l'obésité. Donc certaines, l'AFSA recommande par exemple l'interdiction pure et simple des spots publicitaires durant les émissions pour enfants. Ce qu'a fait la Suède, et ce que vont peut-être faire d'autres pays.
Est-ce que ne fera pas la France?
Ça, je ne peux pas me prononcer.
Revenir sur le cas de la Suède, parce que c'est très intéressant de voir qu'en Suède, en tout cas il y a 2 ans quand j'ai fait cet article, c'était bien établi.
C'était quoi, les de l'enfant roi à l'enfant proie?
Oui, oui. Les publicités destinées aux enfants de moins de 12 ans et aux produits qu'ils consomment, vêtements, aliments, sont interdites à la télévision. Point. Ensuite, les publicités adultes, enfin destinées aux adultes, sont interdites avant et après les émissions enfantines. Et troisième point, dans les publicités, il est interdit d'employer des moyens indirects, de mettre des enfants ou des rires d'enfants en scène, si vous voulez.
Il ne faut pas détourner l'imaginaire des enfants.
Non, qui facilite simplement le mimétisme enfantin, parce qu'il y a un mimétisme enfantin sur lequel actuellement c'est bon. Et alors effectivement, le problème des aliments a été soulevé il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas, si vous voulez, uniquement le marketing et la publicité. Il y a le fait, effectivement, qu'il n'y a pas beaucoup d'espace disponible pour courir, notamment quand on est dans, quand on vit dans des immeubles. Il y a le fait qu'on est donc assis devant la télé. Et en plus, effectivement, la publicité vous dit de grignoter. Donc, effectivement, cet ensemble produit cette obésité. Elle est évidente. Alors, les pouvoirs publics, alors, il y a quelqu'un qui est très connu et qui est très sensé sur ce point-là, c'est le professeur Claude Gaud, qui le dit aussi bien pour l'alcool, pour le tabac que pour les aliments sucrés. Il dit c'est une catastrophe ce qui se passe actuellement en ce qui concerne le progrès de l'obésité des enfants. C'est vraiment une catastrophe parce que ça va déboucher effectivement sur des personnes adultes qui seront effectivement accros, si j'ose dire, à l'obésité, et avec tout ce que ça peut induire comme un problème de santé, si vous voulez. Donc là, il y a un gros problème. Mais ce problème, quand même, d'un point de vue, de l'éthique ou de la déontologie républicaine, est un problème qui devrait conduire les politiques à prendre des mesures draconiennes. Parce que, effectivement, c'est lui l'arbitre. C'est lui qui doit faire la part entre le désir du système de conditionner les enfants et la nécessité des parents de voir les enfants libres par rapport à cela.
Bon. François Brune, cible mouvante, cible changeante, cible inconsciente, on en reparle dans quelques instants. Ils s'appellent les autonomes ou encore les surréalistes, voire les aponais de zone autonome permanente. Il s'agit d'un collectif, pas d'une communauté. Et leur démarche, c'est sous un ciel écolo, tenter de s'affranchir des dictats de la société de consommation dont on est en train de parler, en inscrivant leurs actions dans l'environnement local. Sur le plateau des 1000 vaches, reportage d'Emmanuel Gouache.
Direction Perlevade, au cœur du plateau de 1000 vaches. Matt s'est installé au mois d'avril avec Virginie dans une ancienne grange de 800 mètres carrés. C'est la mairie qui met le bâtiment à disposition. L'objectif, devenir autonome pour la nourriture, pour l'énergie, pour rénover également les murs de la grange. Depuis 4 mois, l'équipe s'est renforcée. Ils sont désormais 7 à vivre en permanence dans les lieux. Il est 16h, nous arrivons à la ZAP, la zone d'autonomie permanente. Et Matt et sa bande ont déjà de la visite.
Nos investisseurs là, ils sont là. Président de l'ADEME, directeur régional.
Ah, c'est l'ADEME. L'ADEME qui est donc
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Et qu'est-ce que vous venez faire ici en fait?
C'est une initiative associative qui arrive dans la région, qui s'intéresse à développer autant des changements de comportement que des techniques pour moins consommer, pour vivre autrement, quoi. Bon, bah, c'est intéressant à connaître et je suis venu les rencontrer pour imaginer ce qu'on pouvait avoir à faire ensemble plus tard. Enfin, notamment ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne cherchent pas forcément les subventions. Ils cherchent d'abord à faire avancer le monde.
Bon, là, on est plus en chantier autoconstruction, mais bon, c'est l'idée de voir des techniques. Il n'y a pas que la laine de verre pour faire de l'isolation, que les parpaings, c'est une catastrophe, que bah, tu vas retrouver de la farine animale là-dedans et compagnie. On peut bâtir autrement. Après, c'est vrai que il nous reste encore 2 bons mois de boulot au niveau de l'habitat pour après enquiller sur tout le reste.
Donc là, le chantier du moment, c'est quoi alors, concrètement?
Ben, pour l'instant, c'est aménager le lieu. Bon, ça, c'est un petit peu le bar, la cuisine, le champ du village, ils viennent.
T'as les toilettes sèches,
toilettes sans eau.
Donc, alors concrètement, les toilettes sèches, qu'est-ce que c'est?
Les toilettes sèches, en fait, plutôt que de griller 12 litres d'eau potable à chaque fois qu'on fait caca ou pipi, eh ben, on utilise, c'est comme des toilettes normaux, sauf qu'au lieu de tirer la chasse, on met de la sciure de bois. Et après, ça va au compost, ça nous fait d'excellents composts au bout de 6 mois. Là, c'est notre raffinerie d'huile de friture. Donc avec station de filtration, préfiltration, et après, bon, on passe tout ça là-dedans. On a une capacité de 1000 litres actuellement par jour. Et après, on roule avec ça gratuitement. En roulant, on est 70% moins polluant.
On continue la visite, donc ça, c'est pour faire l'essence. Enfin, pas l'essence,
c'est la raffinerie. Ouais. C'est une petite macane qui est en construction. C'est un terrain qu'on a repéré dans le village. Ça serait pour y poser sur 3 niveaux. Donc on va faire un centre de balnéothérapie pour les gens du village gratos, tout avec soda, amab, petit jacuzzi et tout. 2 maisons complètement autonomes en énergie. Déjà ça veut dire à la base pas de compteur, ni d'eau, ni d'électricité, ni quoi que ce soit. Donc ça veut dire déjà vivre mieux, hein, parce que le facteur déjà tu l'apprécies un peu plus quand il vient. On leur explique comment ils vont rouler gratuit, faire leur électricité proprement, etc. Tu sors pas indemne de la visite. On n'est pas là pour dire on va retourner à l'âge des cavernes, etc. On n'est pas contre la technologie, mais il y a de la technologie, tu peux en être esclave, en faire le pire truc, et puis tu peux en faire aussi en faire des très bonnes choses. Par exemple, au niveau des travaux qui vont se passer en haut, on est là pour avoir un truc que tu as envie de te dire, bah c'est super, c'est le truc que je voudrais avoir, quoi. De l'autre côté, mondain aussi.
Et concrètement, vous dormez où alors?
Ah ben là, on va aller voir. Mais c'est le plein bordel, hein, parce que c'était le Bronx ici au début. Donc là, ça va être fini les chambres la semaine prochaine. On va brancher, c'est-à-dire qu'on va faire des cloisons avec un mélange chaud sable et copeaux de bois. Et en fait, une cloison comme ça de 3 cm, ça correspond à 17 couches de laine de verre. Ici, il y aura la boulangerie parce qu'on fait le pain. On a déjà commencé, donc on fait le marché le samedi et on échange le pain. Par exemple, samedi dernier, on a changé du pain contre des fromages de chèvre. Donc c'est un rapport aux choses et aux produits. Et puis c'est sympa, ça permet aussi de se connaître un petit peu. Donc le marché ici, tu vois, il n'y avait plus de marché. Bah voilà, on vend du pain. Bientôt, on va emmener de l'huile, de friture pour mettre dans les réservoirs. Enfin, voilà.
Reportage d'Emmanuel Gouache sur le plateau de Mille Vaches. Le site internet du collectif des autonomes, c'est www.surrealiste.org. Petite réaction rapide de vous, François Brune, et de vous, Rémi Sansaloni. Est-ce qu'au-delà de la public critique, on le voit avec les autonomes, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement qui fait jour et qui fait aussi le constat finalement d'une sorte de dévastation écologique qui est aussi entraînée et créée par notre société de consommation? Rémi Sansaloni.
Oui, c'est clair, ces gens-là se situent, à mon avis, dans la sphère de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les alter-consommateurs. C'est-à-dire, très clairement, il faut d'abord relever que c'est des gens qui sont à la campagne et qui habitent pas à Paris ou à la Courneuve. Hein. Donc, un certain nombre des propositions qu'ils font sont difficilement transposables en zone urbaine. Cela étant, d'autres le sont à un niveau plus collectif. Donc, ce sont des alter-consommateurs, c'est évident, qui ont pris conscience d'un certain nombre de problèmes, le problème de l'eau, le problème de l'énergie, et le problème du respect de l'environnement. Là-dessus, il n'y a pas photo, mais ils habitent à la campagne. Et deux ou trois petites, une petite parenthèse. À un moment donné, ils parlent de balnéothérapie. C'est quand même une activité que les bobos parisiens apprécient beaucoup. Donc, ils sont alter-consommateurs, mais ils restent quand même dans une mouvance.
Dans la catégorie des bobos.
Des hédonistes et puis des gens qui, effectivement, cherchent des solutions alternatives, mais il y en a mille et une.
François Brune, on peut être alter et consommateur, alors, en fait.
Oui, bon. Oui, non. Parce que vous remarquez que leur but n'est pas de consommer. C'est-à-dire qu'on les regarde tout de suite, vous voyez, du point de vue de la consommation, on dit tiens, c'est des alters. Non, c'est en fait des alters citoyens ou des alters mondialistes. C'est-à-dire des gens qui veulent un autre monde et qui pensent qu'il est possible. Et d'un certain point de vue, il y a une grande espérance à travers ces comportements. Et vous remarquez quelque chose, c'est qu'ils disent à la fois, on ne veut pas retourner à l'âge des cavernes, mais en même temps, on veut tirer du passé vivant, de la tradition et de l'expérience traditionnelle, un certain nombre d'éléments, de comportements qui sont beaucoup plus respectueux de la nature et finalement de l'être humain. Il y a une sorte de reconquête, si vous voulez, par les personnes, de la relation à la nature, de la relation à l'eau, à l'énergie, etc. Ça, c'est très intéressant. Mais si vous me permettez encore une petite
remarque. Rapidement, s'il vous plaît.
C'est exactement à l'opposé, quand même, de l'idéologie publicitaire qui veut toujours du nouveau, qui veut toujours éliminer le passé au profit de ce qu'elle croit appeler l'innovation.
Bon, on en reparle dans quelques instants. Tout de suite, Bikini Machine sur une nappe de restaurant. C'est sur France Inter, il est 9h43.
Chanson en pensant à tous les gens qui ne mangent que du plancton. Évidemment, ça va de soi, ça va de soi. Évidemment, dans ma voiture de champion, j'ai fredonné cette chanson en pensant à tous les piétons. Évidemment, ça va te...
chanson pour tous ceux qui côte à côte nagent dans une cuve en béton. Un homme comme vous tous, un petit capitaliste qui des autres à la troupe. Évidemment, ça va de soi, ça va de soi. Évidemment, évidemment, ça va de soi, ça va de soi. Évidemment, évidemment, ça va de soi, ça va de soi.
Et la Bombayzi, la Bombayzi, la Bombayzi. Magazine d'Olivia Jasper.
Sur France Inter. François Brune, Rémi Sansaloni, moi je voulais voir un peu avec vous, on a dit que les consommateurs n'aimaient pas trop être assimilés, pardon, les individus sujets à la consommation n'aimaient pas trop être assimilés à la masse, donc on voit qu'on tend vers une personnalisation des messages publicitaires, et ça je trouve que c'est quand même finalement assez intéressant, Rémi Sansaloni. Certains disent que l'acte d'achat est envisagé aujourd'hui comme un geste identitaire, vous pensez ça?
Oui, tout à fait. C'est effectivement ce que j'ai pu observer. Alors, ça rejoint quelque part un peu aussi bon l'hypothèse ou le combat de François Brune, en ce sens que il faut bien reconnaître, et bon, d'autres l'ont dit avant moi, comme la psychosociologue Laura Popard, la consommation c'est un peu la seule chose qui reste aux individus à l'heure actuelle pour s'exprimer. Quelque part, parce que la société de l'hypermodernité dans laquelle nous vivons, qui est donc centrée sur l'individu, où la plupart des systèmes de référence sont obsolètes ou ne sont pas reconnus comme tels, où l'individu est un sujet autofondé qui passe toutes les institutions au crible de son égologie, en gros la consommation lui permet d'exprimer un peu ce qu'il est, ou ce qu'il veut être, ou ce qu'il veut dire, ou ce qu'il a à dire. Donc, en ce sens, c'est un geste identitaire par lequel l'individu va...
C'est quand même assez désolant si la publicité est devenue notre
non,
seul...
La publicité,
les marques et la consommation sont devenues, pardon, les seuls moyens d'affirmer notre identité.
Il ne faut pas confondre publicité et consommation.
Pardon,
la publicité est un outil du mix marketing qui permet à un industriel, un distributeur de proposer un consommateur d'acheter son produit.
C'est
l'acte de consommation. C'est le fait de consommer, d'acheter un produit, d'acheter un service... qui est de la consommation. Et parce que ça.
Alors, c'est quand même un peu désolant, non, finalement,
si
si on est réduit à ça.
C'est désolant.
En tout cas, si on nous réduit à ça.
Peut-être, oui, sans doute, mais c'est une question d'ordre sociopolitique, voire anthropologique, que de soulever cette problématique-là. Donc, effectivement, on peut se poser la question à juste titre. Est-ce que c'est pas désolant? Est-ce que c'est pas symptomatique d'une crise de l'hypermodernité? Je laisse la question en suspens. J'ai une opinion, évidemment.
Je pense que vous allez la faire retomber vite.
Oui,
François Brune.
Bon, moi je voudrais dire qu'effectivement cet acte identitaire, cette pseudo-personnalisation par l'achat du produit, c'est pas nouveau. Enfin, on le constate actuellement, mais c'était déjà le cas en 75, en 80, quand j'ai fait des analyses, les analyses du bonheur conforme. Et ce qui est dramatique, en fait, c'est que cet acte identitaire, qui est surtout un acte mimétique, comment tu n'as pas encore des chaussures RIC, etc. Cet acte mimétique est en fait un acte faussement personnalisant. C'est-à-dire qu'on croit trouver une identité et une personnalité dans un comportement dont on s'aperçoit finalement qu'il est celui de tout le monde. Et donc ça produit naturellement une frustration considérable, de ce point de vue-là. D'autre part, cet acte identitaire ne peut être identitaire que parce que la publicité a essayé de greffer sur le produit un certain nombre de valeurs, de modes d'être, qui ne sont pas intrinsèquement liés à ce produit. Et donc, lorsqu'on a le produit, on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment le mode d'être qu'on espérait avoir. Et donc, ça produit une frustration. Cette frustration, elle engendre deux réactions. La première, qui consiste à dire, c'est que je n'ai pas encore le bon produit. Et donc ça c'est très bien, parce qu'effectivement, on va tâcher de trouver le bon produit, la bonne chaîne, le bon téléviseur, ou bien le bon portable, qui va vous permettre enfin de trouver le mode d'aide dont vous rêviez. Et puis l'autre réaction, effectivement, c'est de vous apercevoir que, fondamentalement, le produit a été décevant. Ce qui fait d'ailleurs ce qui peut donner lieu à un mépris du produit, qui est aussi une erreur, car le produit, c'est le fruit du travail humain. Et alors, ce que je voulais dire effectivement à ce propos-là, parce qu'il faut quand même bien le dire, c'est que cette frustration, elle engendre quand même une sorte de malaise latent, de malheur latent, de malheur conforme à l'intérieur de nos sociétés dites de surabondance, et qui effectivement est dramatique, et qui... Alors, avec effectivement les problèmes écologiques que ça va soulever, laisse quand même très, disons, très douteux que ce modèle puisse continuer d'exister. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument terrible.
Rémi Saint-Saloni, Naomi Klein, une journaliste canadienne, dans son livre No Logo, dit que la publicité, quelque part, prend appui sur le narcissisme du consommateur en nous flattant, que la fidélité aux marques, c'est pas une preuve d'asservissement, mais de narcissisme, d'après elle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'en fait, plus on nous flatte aussi, plus on achète?
Oui, mais ce serait, à mon avis, ce serait faire fi de la capacité des individus à avoir un regard critique sur ce qu'on leur propose. Et moi, j'ai plutôt un regard, dans mon bouquin, je parle du consommateur en clair-obscur, c'est-à-dire que le consommateur, effectivement, il y a des côtés où il se laisse un peu embobiner, mais il a aussi une capacité critique qui est très, très, très forte. Et ce discours-là est un peu trop pessimiste et il fait fi de la capacité du consommateur à réagir, à être créatif. Je pense, moi, j'évoque souvent ces travaux d'un sociologue peu connu qui s'appelle Michel de Certeau, et qui dit que le consommateur, l'individu invente le quotidien grâce à ses arts de faire. C'est-à-dire qu'à travers le développement de son concept de stratégie et tactique, il a clairement montré que les individus étaient capables de développer eux-mêmes, parce qu'ils ont des choses à dire et parce qu'ils ont la capacité à les dire, de construire une stratégie de résistance et des tactiques pour se réapproprier les biens de consommation ou la consommation.
Donc tout à l'heure, vous parliez de segmentation. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le fait de mettre chacun dans des cases, c'est ça?
La segmentation, c'est notre travail d'homme d'études. C'est-à-dire que nous, on essaye de comprendre un peu le comportement du consommateur, et sachant qu'un individu n'est pas isolable, un individu ne se construit que dans la relation avec autrui, avec les autres. Donc, il est forcément membre d'une parenthèse. Tel, il est membre d'une tribu, il est membre d'une société, il est attaché à des valeurs, même si parfois il a du mal à les accepter. Et donc notre travail d'homme d'études est d'essayer de voir si cet individu-là, qui a sa personnalité et son ipséité, comme on dit en philosophie, est aussi quelqu'un qui appartient à des groupes. Donc on essaye de...
L'ipséité,
c'est un terme qu'on trouve chez Jean Kierkegaard, qui signifie ce qui fait qu'un individu est lui-même.
Mais ouais. Vous dites que la segmentation a ses limites aujourd'hui.
Bien sûr.
Si elle est trop poussée, elle est plus rentable.
Bien sûr. Si la segmentation est trop poussée, soit elle découpe les individus en des sous-types, qui ça veut plus rien dire, puisqu'on va trouver deux individus qui correspondent à notre typologie, ou soit on va prendre des grandes typologies qui ne veulent rien dire parce qu'on ne prend pas en compte l'individualité. Donc on est dans une démarche que Edgar Morin appelle le paradigme de la complexité, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte au jour d'aujourd'hui, si on veut comprendre le consommateur, toute sa complexité.
Est-ce que dans ces typologies, pardon, il y a une case, Rémi Saint-Saloni, où il y a indiqué cible qui se croit pas cible?
Cible qui se croit pas cible.
Cible qui pense pouvoir éviter au ciblage.
Non. Enfin, il y a des gens qui pensent effectivement, je dirais pratiquement tous les individus quand on les interroge sur le paradoxe, et qu'ils disent, par exemple, ils disent, je résiste, moi la pub ne m'influence pas, mais elle influence certainement les autres.
Ouais. C'est ça.
C'est l'exemple de dire. Et finalement, si chacun se dit ça, ça veut dire que tout le monde se croit influencé, est influençable, est influencé. Oui, donc, et de fait, quand on lui demande si la publicité influence les actes d'achat, ils sont pratiquement les deux tiers à dire oui. Donc il y a un discours paradoxal et contradictoire qui veut bien dire qu'on a tous le sentiment de ne pas être une cible et ne pas être ciblage et mis en segmentation, mais en fait, de fait, on l'est tous plus ou moins, ne serait-ce que parce qu'on appartient à un collectif, c'est tout.
François Brune,
oui.
En fait, on a tous des imaginaires sous influence, oui. On est tous directement ciblés.
Mais moi, je rejoins tout à fait cette idée de Michel de Certeau, donc, que l'individu, je dirais même pas l'individu, je dirais la personne. Moi, je crois à la personne, sinon j'aurais rien écrit, bien entendu. Mais la personne n'est pas donnée. L'individu est toujours en construction. Et là, tout le problème Alors là, c'est pas simplement un problème de l'individu, c'est un problème au niveau de la famille, c'est un problème au niveau finalement politique, au niveau de la démocratie. Il faut que l'individu ait les moyens, les conditions qui lui permettent de se construire comme personne. Et c'est là où intervient effectivement mon combat à l'encontre du système publicitaire, c'est qu'il empêche cela. Alors bien entendu, l'individu, la personne, ont des moyens de se réapproprier dans des moyens très inégaux selon les conditions sociales dans lesquelles ils sont. Bien sûr qu'ils ont ces moyens, bien sûr qu'il faut les faciliter, bien sûr que les enfants finissent par être critiques, bien sûr. Mais il n'en reste pas moins que le pouvoir de l'individu est actuellement inégal par rapport au pouvoir du système. C'est là où est le problème essentiel. Vous voyez,
l'individu contre le système, et
le problème, il est politique, parce que c'est naturellement au niveau, si on est dans une démocratie, c'est au niveau effectivement de la responsabilité politique de protéger l'individu qui ne peut pas se défendre pour l'aider à se construire lui-même.
Il faut une volonté politique,
très difficile, bien sûr,
pour changer ça. Rémi Sansaloni, je vais vous laisser le mot de la fin. On a parlé tout à l'heure des cibles. Vous avez le mot de l'avant-fin. On a parlé tout à l'heure des cibles fragiles. Est-ce que vous, parfois, vous avez des remords à travailler pour un institut d'études marketing qui travaille justement à mieux nous cibler et à tous nous faire plus consommer?
Je dirais non, ce serait malhonnête, effectivement.
Bah, ce serait un mot de la fin très très efficace, hein, ça je pourrais pas dire.
Non, il est clair que lorsqu'on travaille et lorsqu'on fait des études et qu'on découvre des choses ou qu'on met en évidence un certain type de comportement, on se dit mais comment cette information va être utilisée pour ne pas être exploitée entre guillemets par les gens à qui on les vend.
Donc c'est une question que vous vous posez quand même.
C'est une vraie question de déontologie.
Ouais, bien sûr.
Là-dessus, il y a ton photo notamment avec cette mise en évidence d'une consommateur qui n'empêche est un consommateur plutôt CSP+, et quid de la fracture numérique et de la fracture sociale et tous ces gens qui sont un peu les laissés pour compte du système.
Messieurs, ça fera l'objet d'un prochain débat. Merci beaucoup. C'était Cat Power sur France Inter. Could we? Cat Power qu'on pourra retrouver, eh bien, dans le festival La Route du Rock dont on n'a pas pu parler aujourd'hui avec Bernard Lenoir, mais peut-être demain. Tcha-tcha-tcha, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à François Brune et à Rémi Sansaloni d'être passés nous voir. Alors, leur livre, Le Non-Consommateur, ça c'est le livre de Rémi Sansaloni, est paru aux éditions Duno. Le dernier livre, enfin, un des livres de François Brune, parce qu'il y en a beaucoup que je peux citer, c'est notamment De l'idéologie aujourd'hui, paru aux éditions Parangon. Je cite également nos logos, La tyrannie des marques aux éditions Babel de Naomi Klein et Putain de ta marque de Paul Ariès paru aux éditions Goliath. Trois livres à lire aussi, quatre livres pardon à lire absolument. Le site des casseurs de pub, c'est www.casseurs.net. Vous pourrez trouver plein d'informations sur la pub. Merci beaucoup à toute l'équipe de Tcha Tcha Tchatch, réalisation Bruno Carpentier, préparation Périne Malin, Jean Rovarino et Astrid Fonto, programmation musicale du jour Djoubaka, et à la technique aujourd'hui il y avait Julien Chabassu et Marc Garden.
Respirez lentement, très lentement. Voilà, comme ça, bien, très bien. Maintenant, pensez à quelque chose de très agréable. Par exemple, un week-end avec moi. Bon, ça ne marche toujours pas. Bien, alors là, il n'y a qu'une solution. Prendre un train en première classe.
Cet été, offrez-vous la première classe. Les allées simples TGV et Corail sont à partir de 29 euros en première classe. Faites vite. Offre soumise à condition.
SNCF.
France Inter, il est 10h. Tout de suite, l'heure de faire un point sur l'actualité. Et le journal vous est présenté par Benoît Colomba. Bonjour.
Bonjour. Le niveau d'alerte à la menace terroriste à son plus haut niveau ce matin en Grande-Bretagne. Un projet d'attentat a été déjoué par la police britannique. Le complot prévoyait de faire exploser plusieurs avions de ligne entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Scotland Yard a arrêté une vingtaine de personnes. Une opération antiterroriste pour mettre fin à une menace majeure contre le Royaume-Uni et ses partenaires internationaux, déclare le ministre de l'Intérieur britannique. Des mesures de sécurité draconiennes ont immédiatement été appliquées dans les aéroports britanniques, fouilles au corps et bagages à main interdits. Seules les pochettes transparentes sont autorisées. Annulation et retour.